Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui de cinq points. Cinq points qui nous équipent pour des exploits. Dites cinq points qui m'équipent pour des exploits. Alléluia. Il y a un point intéressant dans les Écritures. Regardez bien. Jésus-Christ a accompli un exploit au travers de la croix. Amen. Il est donc allé à la croix. Il a accompli l'exploit. Il est ressuscité. Il est monté au ciel et il a envoyé le Saint-Esprit. Donc l'exploit a été absolument glorieux. Et je trouve intéressant dans les Écritures que ces facteurs se sont manifestés au moment, juste avant, qu'il meure et qu'il fasse son exploit, qu'il meure, qu'il aille en enfer, qu'il ressuscite, qu'il monte au ciel et qu'il envoie le Saint-Esprit. Et j'aimerais qu'on étudie ces cinq facteurs importants parce que, vous voyez, vers la fin du ministère de Jésus, du ministère terrestre, il y a des gens qui l'approchent pour lui poser des questions, quatre questions. Et lui, il répond avec une dernière question. Et la Bible dit qu'après ce jour-là, personne n'osa jamais lui poser une question. Et la Bible nous dit qu'après cela, ils ont décidé de le crucifier. Et après cela, Jésus a fait un exploit. Amen. Luc 20. Tu peux mettre tout le chapitre. Hein. Prenons la version Darby. Luc chapitre 20. Dites cinq facteurs pour des exploits. Et il arriva l'un de ces jours, comme il enseignait le peuple dans le temple et évangélisait, que les principaux sacrificateurs et les scribes survinrent avec les anciens. Verset 2. Ils lui parlèrent, disant, « Dis-nous par quelle autorité tu fais ces choses, et qui est celui qui t'a donné cette autorité ?» Et répondant, il leur dit, « Je vous demanderai moi aussi une chose. Dites-moi, le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes ?» Ils raisonnèrent entre eux, disant, « Si nous disons du ciel, il dira, pourquoi ne l'avez-vous pas cru ? Et si nous disons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. » Et ils répondirent qu'ils ne savaient pas. Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais ces choses. » Ok. Donc là, on observe qu'il pose une question. Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Le premier point, vous notez ces choses, hein, vous les relisez. Le premier point, c'est par quelle autorité ? Le premier facteur, c'est le chrétien doit connaître son autorité en Christ. Qui vous a donné une telle autorité ? Qui vous a donné autorité de vivre comme Christ ? Qui vous a donné autorité de parler à la maladie et qu'elle obéisse ? Qui vous a donné cette autorité ? Vous devez comprendre votre autorité en Christ. L'autorité de Christ est absolue et finale. L'autorité de Christ est absolue et finale. La question n'est pas de comprendre celle de Christ, parce que celle de Christ est facile. Il a autorité sur tout. La question, c'est quelle est votre autorité en Christ ? Dites, j'ai autorité en Christ. Prenez Matthieu 21, 23. Alléluia. Matthieu 21, 23. C'est la même question sous un autre angle, dans un autre évangile. Et quand il fut entré dans le temple, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent à lui, comme il enseignait, disant, « Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné cette autorité ? » Vous devez comprendre par quelle autorité le chrétien vit. Et qui vous l'a donné ? Regardez, si ça c'est un truc qu'on doit comprendre sur la fin des temps. L'antéchrist, il va recevoir une autorité, n'est-ce pas ? De qui il la reçoit ? Du diable. Ce qui veut dire que cette autorité n'est pas absolue. Nous, de qui avons-nous reçu l'autorité ? De Dieu, de Christ. Le premier facteur pour faire des exploits, c'est comprendre l'autorité par laquelle nous avons été investis et qui nous l'a donnée. Dites, j'ai reçu l'autorité. Elle m'a été donnée par Dieu. Gloire à Dieu. Prenez maintenant où ? Prenez Matthieu 7, 29. Matthieu 7, 29. « La Bible dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Amen. 1 Jean chapitre 4 verset 17. Dites tel il est, tel je suis dans ce monde. La Bible dit, car il, donc Jésus, les enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Dites, j'ai autorité comme Christ avait autorité. 1 Jean chapitre 4 et verset 17. 1 Jean chapitre 4 et verset 17. Oh, vous allez voir. Dites, j'ai autorité. Dites, je comprends mon autorité. Je sais d'où elle vient. Regardez. En ceci est consommé l'amour avec nous, afin que nous ayons toute assurance au jour du jugement. C'est que, comme il est, lui, nous sommes aussi dans ce monde. Donc ça veut dire que la même autorité que Jésus avait, la même autorité nous avons. 1 Jean chapitre 4 et verset 17. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Pas dans le monde à venir, dans ce monde. Regardez, il précise bien, dans ce monde. Et regardez, il n'a pas dit tel que Jésus était sur terre. Il a dit tel que Jésus est maintenant sur son trône de gloire. Tel nous sommes maintenant dans ce monde. 1 Jean chapitre 4 et verset 17. Vous voyez comme c'est merveilleux ? Oh, alléluia. Prenez Proverbe 29, 2. Proverbe 29, 2. Parce que une fois que c'est le premier facteur, vous devez comprendre votre autorité et de qui, ou plutôt d'où elle vient. Dites, j'ai autorité. Vous devez comprendre que votre autorité s'étend à tous les domaines du monde. Tous. Regardez, regardez, regardez. Vous allez voir dans Proverbe. Proverbe 29, 2. La Bible nous dit quoi ? Quand les justes se multiplient, le peuple se réjouit. Mais quand le méchant gouverne, le peuple gémit. Vous voyez ? Quand le méchant quoi ? Gouverne. Ça veut dire que nous sommes censés gouverner. Amen. Nous sommes censés gouverner. Romains chapitre 5, verset 19. 17, 18, 19. Mettons-les tous. Romains 5, 17, 18, 19. Enfin, 17 à 19, juste. Dites, je suis plein d'autorité. Et vous voyez, c'est quelque chose parce que une personne qui a de l'autorité ne sait pas qu'elle a autorité des fois. Et à cause de ça, elle ne vit pas dans cette autorité. Dites, j'ai autorité. Et le peuple se réjouit que j'ai autorité. Car si par la faute d'un seul, Romains chapitre 5, verset 17, car si par la faute d'un seul, la mort a régné par un seul, beaucoup plus tôt ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils en vie ou dans la vie par un seul Jésus-Christ. En fait, le verset 17 me suffit. Merci beaucoup. Regardez, vous êtes censés régner dans la vie. Rien n'est censé régner sur vous, excepté Christ. Aucune circonstance ne devrait régner sur vous, aucune. Aucun problème ne devrait régner sur vous. Aucun. Dites, aucun problème ne règne sur moi. Mais je règne en majesté. Parce que je sais d'où vient mon autorité. 2 Corinthiens 10, verset 8. 2 Corinthiens 10, verset 8. Alléluia. Dites, j'avance de tous côtés. Dites, je m'étends de tous côtés. Dites, je gagne constamment. Dites, l'échec ne fait pas partie de ma vie. Regardez. Car si même je me glorifiais un peu plus de notre autorité que le Seigneur nous a donnée, pourquoi ? Pour l'édification et non pas pour votre destruction. Donc l'autorité qui vous a été donnée pour construire l'autre, pour construire autrui. Vous savez, il y a des pasteurs qui vont dire, ah, attention, moi j'ai des anges qui vont venir contre vous si vous faites des bêtises contre moi. Vous avez déjà entendu ça ? Il y a des pasteurs qui disent ça. Hein. Stella, elle en connaît. Des pasteurs qui vont dire, si tu ne me donnes pas ta dîme, un ange de destruction va venir contre ta maison. Regardez ce que la Bible dit. Que l'autorité nous a été donnée pour construire, édifier les gens. Ça change de pasteur Chris qui dit qu'il a des anges de guérison. Hein. Alléluia. Dites, j'ai des anges de guérison avec moi. Vous savez que quand vous priez en langue, vous parlez le langage des anges. Les anges sont déployés dans votre vie. Vous savez ça ? Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Continuons à observer, continuons à observer. Alléluia, nous observons les Écritures. Dites, je suis construit par l'observation des Écritures. Prenez Tite 2, verset 15. Vous voyez, vous avez autorité. Nous marchons dans une autorité et nous devons savoir d'où elle vient, de qui elle vient et en quoi elle consiste. Dites, je comprends l'autorité. Nous parlons aujourd'hui de 5 facteurs pour des exploits. Et les réponses de Jésus l'ont conduit à la crucifixion et à son exploit. Tite, chapitre 2 et verset 15. Vous voyez, Dieu vous construit. Regardez, annonce ces choses, exhorte et reprend avec toute autorité de commander. Donc, votre autorité consiste à commander, vous voyez. C'est la chose des fois que le chrétien fait faux. Quand il a un problème, il appelle Dieu au secours. Ou alors, il va dire, je chasse ceci au nom de Jésus. C'est bien. Mais la Bible dit qu'on commande aux choses de partir. On commande aux choses de s'aligner. Amen. On parle de quoi aujourd'hui? 5 facteurs pour faire des exploits. N'est-ce pas? Dites-le, 5 facteurs pour faire des exploits. Luc 20. Reprends juste le chapitre, hein, 19 à 25. On va voir le deuxième facteur. Le premier facteur, c'est? C'est ça, alors notez comme ça, exactement comme ça, on est tous uniformes. Connaître son autorité en Christ, comprendre de qui et d'où elle vient. Connaître son autorité en Christ, comprendre de qui et d'où elle vient. Dites, je comprends mon autorité. Et il arriva, prenons le verset 20 plutôt, Luc 20, verset 19 à 25, excuse-moi. On va prendre à partir du verset 19. Dites, j'avance de toutes parts. Et les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent en cette même heure à mettre la main sur lui. Et ils craignaient le peuple car ils connurent qu'il avait dit cette parabole contre eux. Continuons. Et l'observant, ils envoyèrent des agents secrets qui feignaient d'être justes pour le surprendre en quelques paroles de manière à le livrer au magistrat et au pouvoir du gouverneur. Et ils l'interrogèrent, disant « Maître, nous savons que tu dis et que tu enseignes justement, ça veut dire de manière juste, n'est-ce pas ? Et que tu n'as point d'égard à l'apparence des personnes, mais que tu enseignes la voie de Dieu avec vérité. Nous est-il permis de payer le tribut à César ou non ? Et s'apercevant de leur perfidie, donc Jésus a compris leur méchanceté. Il leur dit, « Pourquoi me tentez-vous ? Montrez-moi un denier. De qui a-t-il l'image de l'inscription ?» Le denier était donc une pièce de l'époque. Hein. Et ils répondirent, et répondant, ils dirent, « De César. » Et puis il leur dit, « Rendez donc les choses de César à César et les choses de Dieu à Dieu. » Deuxième facteur, comprendre la vie, ou plutôt comprendre la réalité de donner, comprendre comment donner, comment fonctionne le fait de donner et de récolter. Regardez, il a dit donner à César ou rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc Jésus avait compris comment donner. De Corinthiens 9, 6 à 8. 2 Corinthiens 9, 6 à 8. Il y a une connexion directe entre un homme, une femme bien sûr, et son porte-monnaie. Je peux regarder la vie de n'importe qui et voir comment est leur vie juste en regardant leurs finances. Vous saviez ça? Une personne qui a ses finances en désordre aura sa vie en désordre. Toujours. C'est toujours le cas. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils deviennent millionnaires, ils gagnent au loto. Ils deviennent millionnaires du jour au lendemain et dans les 6 mois, ils n'ont plus un sou. Pourquoi? Parce que vous voyez, leur porte-monnaie est le reflet de leur profonde intérieur. Toujours. Toujours. Une personne gère mal son argent, ça veut dire qu'elle gère mal sa vie. Une personne gère bien son argent, elle gère bien sa vie. C'est simple. Regardez ce que la Bible dit. Or, je dis ceci, celui qui sème chichement, ça veut dire d'une manière radine, littéralement, moissonnera aussi chichement. Et celui qui sème libéralement, moissonnera aussi libéralement. Que chacun fasse selon ce qu'il se l'est proposé dans son cœur, non à regret ou par contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Donc Dieu ne s'attend pas à ce que vous donniez sous contrainte. Pourquoi ? Parce que ce n'est plus un don quand vous donnez par contrainte. Si par exemple je manipule quelqu'un, il y a beaucoup de pasteurs qui manipulent et ils disent « Si tu ne donnes pas ta dîme, Dieu va être en colère contre toi. » Ne donne pas une offrande, Dieu va être en colère contre toi. eh bien, la personne va donner sa dîme, son offrande et toutes ces choses-là avec la mauvaise intention. Et Dieu n'aime pas ça. Regardez, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Donc, en fait, on doit arriver, vous savez, et Dieu, et c'est marrant parce qu'on pourrait croire qu'il y a une petite contradiction, parce qu'il vient de dire, si vous donnez peu, vous moissonnerez peu. Si vous donnez beaucoup, vous moissonnerez beaucoup. Et juste après, il dit, mais que vous donnez avec joie. Ça veut dire que la personne doit comprendre le principe du don. Voyez ? Parce qu'une personne qui dit, je donne à Dieu 1000 francs pour récolter 10 000. Ok, c'est un principe spirituel qui fonctionne, mais est-ce que l'intention est juste derrière ? Quelle est l'intention qui motive ça ? Si c'est l'appât du gain, vous pouvez oublier. Dieu ne récompense pas l'appât du gain. Dieu ne récompense pas le mauvais travail. Dieu ne récompense pas ces choses-là. Pasteur Chris, ceux qui ont suivi le culte de communion, d'ailleurs, bienvenue dans le mois des conquérants. Le pasteur Chris, quelqu'un lui a posé la question, est-ce que Dieu peut tricher la loterie pour moi ? Est-ce que je peux acheter un ticket par foi et espérer gagner la loterie ? Et pasteur Chris a répondu, il a dit, ah, Dieu peut tout faire. Ce n'est pas la question. La question, c'est pourquoi voudrais-tu gagner la loterie ? Il a dit, en général, ceux qui veulent gagner la loterie, c'est parce que, vous voyez, c'est parce qu'ils ne veulent pas travailler et prospérer d'une manière sur le long terme, et ils veulent de l'argent tout de suite, il y a un appât du gain tout de suite, et Dieu ne récompensera jamais l'appât du gain. Jamais. La Bible dit que celui qui augmente sa fortune augmente son souci. Notez qu'il n'a pas dit celui qui augmente la fortune de Dieu dans sa vie. Il dit celui qui augmente sa propre fortune augmente son souci. Mais nous, notre fortune appartient à Dieu. Donc vous pouvez être riche, 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 riche. Votre fortune appartient à Dieu. Amen. Dites, je comprends la loi de donner. Verset 8. Mais Dieu est puissant pour faire abonder toute grâce envers vous, afin qu'ayant toujours en toute chose tout ce qui suffit, vous abondiez pour toute bonne œuvre. Donc, facteur numéro 2. Comprendre la vie et la loi derrière le don spirituel, le don d'argent, le don de soi, le don de temps. Quand vous semez, vous récoltez. Mais Jésus avait compris ce principe-là. Amen. Donc la deuxième chose, c'est que vous devez comprendre comment donner. Vous devez comprendre que chaque fois que vous donnez, vous augmentez votre fortune en Christ. Chaque fois. Et je parle de fortune d'argent là. Parce que la Bible dit... Ok, continuons. Regardez, prenez bien la version d'Arby. Exode 21:21. Version d'Arby, on va la voir ici. Parce que des fois, vous savez, les versions plus modernes manquent ce que l'auteur essaie de dire. Par exemple, à un moment, dans la Bible, il est écrit « Ayez la foi de Dieu ». Littéralement, c'est du génitif en grec. C'est « Ayez la foi de Dieu ». Mais vu qu'ils n'ont pas compris, ils ont dit « Ayez foi en Dieu ». Mais non, le message était « Ayez la foi de Dieu ». Regardez. Seulement s'il reste debout un jour ou deux, il ne sera pas mangé, car il est son argent. Ça, c'est un principe spirituel. Les gens sont ou sont le reflet de leur argent. Toujours. Toujours. Il y a toujours un porte-monnaie, une liaison. Il y a une ligne électrique entre le cœur d'un homme et son porte-monnaie. Le cœur d'une femme et son porte-monnaie. Toujours. Les gens disent que l'argent corrompt. Ce n'est pas vrai. Hein. Ça, ce n'est pas vrai. L'argent ne corrompt pas. C'est la personne qui était corrompue, mais elle n'avait pas d'argent pour vivre sa corruption. Regardez, j'ai une connaissance très éloignée. Elle a grandi à l'église avec moi. Hein. Elle a grandi à l'église avec moi. Dans une église, véricule blanc, quand j'étais petit. Un gars très sympa. Quand il a commencé à avoir beaucoup d'argent, il a commencé à aller voir des prostituées. Il a commencé à prendre des drogues. Vous croyez qu'il n'avait pas ça dans son cœur avant ? Il avait ça dans son cœur. C'est juste qu'il n'avait pas l'argent pour le faire. L'argent va exposer et étendre et manifester la profondeur du cœur. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils ont de l'argent. Ils le dilapident très vite. L'argent disparaît, ils ne le retrouvent plus. Il y a des gens qui ont de l'argent, qui vont l'utiliser pour construire autrui. Ils vont l'utiliser, ils vont le semer, ils vont le donner pour les gens. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui vont essayer de l'accumuler au maximum. Pourquoi ? Parce que ça montre que dans leur cœur, ils ont une insécurité par rapport à l'argent. L'argent pourrait disparaître, donc il faut le garder au plus. On pourrait manquer d'argent. Et ça veut dire que la personne ne comprend pas que Dieu est sa source, vous voyez ? Donc, l'argent est toujours un reflet de la personne. Il est son argent. Amen. On a vu le deuxième facteur. Vous êtes prêts pour le troisième ? Dites, je comprends comment donner. Prenez Luc 20, 27 à 33. Luc 20, 27 à 33. Dites la parole de Dieu me dessine. Et quelques-uns des Sadducéens qui nient qu'il y ait une résurrection, donc c'est des gens qui pensaient que la résurrection n'existait pas, regardez, s'approchèrent et l'interrogèrent disant, Maître, Moïse nous a écrit que si le frère de quelqu'un meurt ayant une femme et qu'il meurt sans enfant, son frère prenne la femme et suscite de la postérité à son frère. Donc là, il mentionne un passage des Écritures qui dit, voilà, s'il y a une femme qui a marié un homme, si cet homme meurt sans donner une descendance à sa femme, son frère est supposé prendre la femme et lui donner une descendance. D'accord ? Et il continue. Il dit, il y a donc 7 frères, et le premier ayant pris une femme mourut sans enfant. Et le second prit la femme, et celui-ci aussi mourut sans enfant. Et le troisième la prit, et de même aussi les 7. Et ils ne laissèrent pas d'enfant et moururent. Et après eux tous, la femme aussi mourut. Donc, dans la résurrection donc, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme ? Car les 7 l'ont eue pour femme. Et Jésus leur dit, les fils de ce siècle se marient et sont donnés en mariage. Mais ceux qui seront estimés dignes d'avoir part à ce siècle-là et à la résurrection d'entre les morts ne se marient ni se sont donnés en mariage. Aussi, ils ne peuvent plus mourir car ils sont semblables aux anges et ils sont fils de Dieu étant fils de la résurrection. Alléluia. Donc là, ils posent une question un peu piège à Jésus. Ils disent, ah, il n'y a pas de résurrection. Donc, s'il y a une résurrection, toi qui crois en résurrection, que se passe-t-il si un homme meurt et il laisse sa femme tranquille, toute seule, et son frère meurt et il laisse sa femme toute seule ? Quand il y a la résurrection, elle va être la femme de cet homme, et ils essayent de piéger Jésus avec ça. Troisième point. Vous écoutez bien, hein ? Vous devez comprendre la vie du surnaturel. Ces gens-là n'avaient pas compris le surnaturel. Ils n'avaient pas compris et pensaient donner une question piège à Jésus en disant « Ah, mais s'il y a une résurrection des morts, machin, machin. » Mais Jésus avait compris la résurrection des morts. Donc Jésus avait compris le surnaturel. Dites « Je comprends la vie du surnaturel. » Vous savez, vous devez comprendre, la plupart, pas toutes, mais la plupart, un gros pourcentage des maladies sont causées par des êtres spirituels. Combien de fois on voit ça ? Même une personne a un accident qui est... Vous voyez, ça c'est quelque chose que je voulais vous dire. Il y a des gens qui doutent que Dieu veut guérir. Ils disent non, Dieu ne guérit pas toujours. Si c'est vrai, pourquoi est-ce que Dieu a mis à l'intérieur de notre corps quelque chose pour que notre corps se guérisse automatiquement ? Non mais on y pense à ça. Si Dieu ne veut pas notre santé, pourquoi est-ce qu'il a mis un système immunitaire ? Pourquoi est-ce qu'il a fait que si on se casse un os, il se répare ? C'est quand même quelque chose. Observez, si vous voulez vous amuser une fois, regardez un documentaire sur le système immunitaire. C'est quelque chose qui défie l'intelligence. Encore aujourd'hui, ils ne savent pas comment ça se développe. Encore aujourd'hui, ils ne sont pas sûrs de comment tout fonctionne. Comment est-ce que notre corps a des petits êtres indépendants qui passent de partout dans notre corps et qui expulsent toute chose qui n'est pas bonne ? Encore aujourd'hui. N'oubliez pas, Christ en vous est venu remplacer même ce système immunitaire s'il est défaillant. Amen. Votre système immunitaire est construit par la parole de Dieu en vous. Et donc, Dieu veut, c'est le troisième facteur, que vous compreniez la vie du surnaturel. Il y a un monde surnaturel qui existe vraiment, qui est mesurable jusqu'à une certaine manière. Par exemple, s'il y a des problèmes d'argent ici, c'est surnaturel. Dieu n'a jamais prévu qu'on soit pauvre. Il y a bien assez d'argent et de richesses dans ce monde pour tous les humains. Je vous le garantis. Je vous le garantis. La pauvreté est surnaturelle. Vous voyez, tout est spirituel. Dites, tout est spirituel. Donc, là, il expliquait, Jésus, il dit, non, vous devez comprendre le surnaturel. C'est pas une question de, est-ce que quand ils ressuscitent, ils vont se marier ou pas. Non, c'est surnaturel. Dites, je comprends le surnaturel. Alléluia. 1 Corinthiens 2, 10. J'espère que vous prenez note, hein, parce que vous devez méditer sur ces choses. Les messages que je transmets ici sont donnés sur l'inspiration et la conduite du Saint-Esprit. Vous devez écouter ces choses encore et encore et encore et être construit par ces messages. Amen. Alléluia. Mais Dieu nous a révélé par son Esprit, car l'Esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Vous devez comprendre le surnaturel par l'Esprit. Dites, je comprends le surnaturel. Par l'Esprit. C'est pour ça que vous priez en langue. Vous parlez en langue beaucoup, beaucoup. Amen. Qui parle en langue ici? Alléluia. Prie en langue beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Amen. Alléluia. Acte 20, 32. Dites, j'avance de toutes parts. Et j'applique ces facteurs pour les exploits. Vous voyez, peut-être qu'à votre compréhension actuelle, un exploit, ça va être de « Oh, avoir ceci ». Ne vous en faites pas. Peut-être pour un autre chrétien, c'est un petit exploit. Mais pour vous, c'est un gros exploit. Et vous allez faire cet exploit, comment? Par ces cinq facteurs. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les sanctifiés. C'est la grâce, la parole de grâce. Pourquoi on vient à l'église? Non, on vient à l'église pour la parole de grâce. Dites la parole de grâce. On vient à l'église pour la parole de grâce qui continue par vous construire, qui continue pour vous faire avancer. C'est pour ça que ici, l'essentiel de notre ministère consiste à enseigner les gens. Pourquoi? Parce qu'après, au moins problème, dans le nom du Seigneur Jésus, ils commencent à prier, à se construire et ils font ce qui est juste. Amen. Dites, je fais ce qui est juste. Dites, mon esprit est énergisé pour la victoire. 1 Corinthiens 2, 30. Donc là, vous voyez, vous êtes construit par la grâce. Vous êtes construit par la parole de grâce. Elle vient en vous, elle vous construit. Vous comprenez qui est Dieu, vous comprenez qui vous êtes en Christ. Vous comprenez votre autorité. Numéro 1, on comprend son autorité. Numéro 2, on comprend la loi de donner. Exactement. Numéro 3, on comprend le surnaturel. Dites, je comprends le surnaturel. Ok, mais prenons par contre Marc 11, 33. Dites, je comprends la loi du surnaturel. Et répondant, ils disent à Jésus, nous ne savons. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais ces choses. Nous allons comprendre maintenant le surnaturel. Le surnaturel fonctionne en parlant la parole de Dieu. Amen. Je vous donne juste des petites clés rapides, parce qu'on doit voir les deux autres points. Dites, je grandis dans la parole. Dites, je grandis dans ma compréhension. De mon autorité. De la loi des dons et du surnaturel. Numéro 4, Matthieu 22, 32 à 40. Matthieu 22, 32 à 40. On va voir le quatrième point. Vous êtes prêts pour le quatrième point? Alléluia. Dites, je suis prêt pour le quatrième point. Parce que vous voyez, ces choses-là vous enseignent, vous rentrez à la maison, vous comprenez la loi du don, vous comprenez la loi du surnaturel, vous dites, j'ai un problème, oh là là, j'ai un problème au travail. Vous commencez à prier, au lieu de faire, je vais aller, voyons voir la loi. Non, vous commencez à prier dans les langues de l'esprit, le Saint-Esprit va vous guider surnaturellement là où vous devez aller. Vous commencez à parler la parole de Dieu et la situation, chaque, devient claire et nette. Vous comprenez la loi du don, vous êtes là, je vais donner tellement que je vais moissonner énormément. Et je vais le faire avec joie. Et vous comprenez la loi du surnaturel et vous comprenez votre autorité. Moi, je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas les dieux des morts, mais des vivants. Continuons. Et les foules ayant entendu cela s'étonnèrent de sa doctrine. Et les pharisiens ayant ouï dire qu'il y avait fermé la bouche aux sadducéens s'assemblèrent en un même lieu. Donc rappelez-vous, Jésus vient de taire les sadducéens sur leur mauvaise compréhension du surnaturel. Ok? Et l'un d'eux, docteur de la loi, l'interrogea pour l'éprouver 10 ans. Verset 36. Oui, pas de souci. Maître, quel est le grand commandement de la loi? Verset 37. Et il lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset 38. C'est là le grand est le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend la loi tout entière et les prophètes. Le quatrième point, comprendre la loi de l'amour. Comprendre la loi de l'amour. Dites, je comprends la loi de l'amour. Et c'est là que vous allez faire des exploits. Jésus est venu et il a déversé son sang, il a déversé sa vie, il a donné sa vie pour que vous puissiez marcher dans la victoire. Pour que vous puissiez marcher dans l'amour. Pour que vous puissiez marcher dans l'autorité. Et ça, il l'a fait sur la base de l'amour. Amen. Dites sur la base de l'amour. Deutéronome 6, 4 à 6. Deutéronome 6, 4 à 6, vous allez voir. Dites j'avance à tous égards. Dites ma vie est embellie par l'amour de Dieu. Dites encore j'embellis la vie des autres par mon amour. Gloire à Dieu. Donc on comprend la doctrine, la loi de l'amour. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un seul éternel. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. Donc bien sûr, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, comprenons-le. Mais cette vérité sur l'amour de Dieu reste juste. L'amour, on doit aimer Dieu. Et quand on aime Dieu, on aimera son peuple. Et quand on aime Dieu, on aimera ses humains. On aimera sa création. Vous devez vivre dans l'amour. Dites, je vis dans l'amour. Aimez les nations. Aimez les gens qui vous entourent. Aimez les autres. Aimez-vous vous-même. Aimez Dieu. Aimez les pauvres. Aimez les riches. Aimez les gens méchants, les gens bons. Aimez les gens. Amenez leur Christ. Aimez-les. Vous êtes prêts pour la suite? 1 Corinthiens 13:8. Vous voyez, quand vous avez l'amour, vous vivez pour l'autre. Vous ne vivez plus pour vous-même. C'est pour ça que la Bible dit « Une nécessité m'en est imposée de prêcher l'Évangile. » Il y a une nécessité qui nous est imposée. On arrête de penser qu'à soi-même, qu'à son appart, qu'à sa voiture, qu'à son travail, qu'à ses enfants, qu'à sa situation, qu'à son business, qu'à tous ces trucs-là. On pense aux autres, on veut construire l'autre. L'amour ne périt jamais ou ne faillit jamais. Regardez, l'amour de Dieu ne peut pas faillir. Quand vous marchez dans l'amour, vous ne faillissez jamais. Dites « je ne faillis jamais ». Dites-le « je ne faillis jamais ». Parce que je marche dans l'amour. Vous savez, il y a cette idée que le chrétien peut tomber, se relever, tomber, se relever. Ce n'est pas un principe biblique ça. Là, il est clair, l'amour, le terme péril est un peu spécial. Littéralement, c'est « ne faillis jamais », « ne trébuche jamais ». L'amour, si vous marchez dans l'amour, vous pouvez ne jamais trébucher une seule fois. Non, c'est qu'au ciel qu'on sera parfait, qu'on ne fera plus de péché. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Hein. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit à celui qui est capable de nous présenter devant lui sans aucune blâme, sans aucune faute. Et la Bible dit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 10, à lui qui est capable de nous préserver de toute chute. Toute chute. Vous êtes possible... Pardon. 2 Pierre, chapitre 1, verset 10, nous dit, en fait... Je m'excuse, il nous dit, si vous faites ces choses, vous ne trébucherez jamais. À lui qui est capable de nous préserver de toute chute. La Bible dit dans Matthieu 5, 48, soyez parfaits tel que votre Père céleste est parfait. Donc il parle d'une perfection divine. Vous pouvez marcher dans la perfection. Vous pouvez marcher sans péché, sans maladie, sans rien du tout, sans pauvreté, sans rien. Vous pouvez marcher dans la perfection de Dieu. Et il dit, or il y a-t-il des prophéties, elles auront leur fin. Il y a-t-il des langues, elles cesseront. Il y aura-t-il de la connaissance, elle aura sa fin. L'amour ne périra jamais. L'amour ne périra jamais. Et quand vous marchez dans l'amour, vous ne pouvez pas être dans l'échec. L'échec n'existe plus, vous enlevez l'échec de vos têtes. Amen. Maintenant vous voyez, ils ont posé ces 4 questions à Jésus. Et Jésus les a toutes répondues. Et maintenant, Jésus, Matthieu 22, 40 à 45, Jésus maintenant leur pose une question. Jésus leur pose une question maintenant. Ils ont posé leurs 4 questions. Ils ont été envoyés péter. Vous voyez ? Ils ont voulu faire les malins, ils n'ont pas pu l'avoir. Ça les a mis dans une telle colère. Et là, il y a le 5e point que Jésus aborde. Donc Jésus, de ces 2 commandements dépendent la loi tout entière et les prophètes. Verset 41. Et les pharisiens étant assemblés, Jésus les interrogea. Ah, c'est Jésus qui pose la question maintenant. Disant, que vous semble-t-il du Christ? De qui est-il fils? Ils lui dirent, de David. Il leur dit, comment donc David en esprit l'appelle-t-il Seigneur? En disant, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Donc là, Jésus leur pose une question piège. Il dit, vous avez voulu jouer avec moi? Moi, je vais vous poser une question. Le Christ, de qui est-il le fils? Et il dit, c'est le fils de David, parce que la Bible dit, et il dit, alors comment David l'appelle-t-il Seigneur alors qu'il est son fils? Donc là, il est en train de leur montrer que le Christ, vous voyez, était le Seigneur de David, tout en étant dans sa descendance. Donc il est en train de dire, c'est moi le Christ. Mais le 5e point, c'est comprendre la seigneurie de Jésus-Christ. Dites, je comprends la seigneurie de Jésus-Christ. Un Corinthiens 12, 3. C'est la seigneurie de Jésus-Christ. Vous devez comprendre que Jésus est seigneur de votre vie. Il est seigneur de vos finances. Il est seigneur de votre santé. Il est seigneur de votre voisinage. Vous savez le nombre d'entre vous que vous devez amener des gens à Christ dans votre voisinage. Le voisinage, j'entends pas seulement l'immeuble dans lequel vous vivez, j'entends le fitness où vous allez, l'endroit où vous travaillez. Vous devez amener des âmes là-bas à Christ. Jésus est seigneur de ces endroits. Vous arrivez dans une nouvelle ville, vous dites « Jésus est seigneur de cette ville ». Regardez, c'est pourquoi je vous fais savoir que nul homme parlant par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus, anathème à Jésus, et que nul ne peut dire Seigneur Jésus si ce n'est pas par l'Esprit Saint. Donc, quand vous dites Seigneur Jésus, Jésus est Seigneur, dites Jésus est Seigneur. Quand vous le dites avec la conviction intérieure, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit en vous. C'est le Saint-Esprit en vous. Si vous pouvez dire sincèrement Jésus-Christ est Seigneur, ça veut dire que le Saint-Esprit vit en vous, point final. Point final. Le Saint-Esprit vit en vous. Si vous dites là sincèrement, vous croyez que Jésus-Christ est Seigneur et vous le dites à haute voix, ça veut dire que le Saint-Esprit vit en vous, aucune importance ce que les autres vous disent, aucune importance ce que peuvent vous dire les autres. Et là, vous arrivez parce que vous avez compris votre autorité, vous avez compris le don, vous avez compris la loi du surnaturel, vous avez compris la loi de l'amour et vous pouvez arriver dans un endroit et dire Jésus-Christ est Seigneur. Pourquoi ? Parce que vous proclamez l'amour en disant ça, vous proclamez son autorité en disant ça, vous proclamez votre autorité, vous proclamez la loi de don, vous proclamez le surnaturel sur cet endroit. Jésus-Christ est Seigneur. Dites Jésus-Christ est Seigneur de ma vie. Il est Seigneur de ma maison. Il est Seigneur de mon quartier. Il est Seigneur de mon entreprise, de mon voisinage, de ma ville, de ma vie, de mes finances, de ma santé, de mes amitiés, de mes relations. Jésus-Christ est Seigneur. Quand vous vivez dans cette révélation, vous rentrez dans un endroit et vous dites « Ah ah ah, je suis le fils du Seigneur vivant, je suis le fils du Dieu vivant, Jésus-Christ est Seigneur, au nom de Jésus je rentre. » Mais vous voyez, le fait de comprendre que Jésus-Christ est Seigneur est lié à la compréhension des quatre autres points. L'autorité, le don, le surnaturel, l'amour. Pourquoi ? Parce que vous rentrez au travail. Alléluia ! Vous rentrez dans vos lieux de travail, vous rentrez dans votre appartement, Jésus-Christ est Seigneur ici. Vous savez, si vous réalisez que Jésus est Seigneur de votre appartement, je vous garantis qu'il va être nickel. Vous allez en prendre soin, mais oh là là, parce que Jésus est Seigneur d'ici. Amen. On n'en prend pas soin pour que Jésus puisse enfin venir. Non, on en prend soin parce que Jésus est Seigneur de cet endroit. Quand vous commencez à bien travailler, quand vous commencez à gérer vos finances, vous êtes conscient que Jésus-Christ est Seigneur de ces choses. Dites Jésus-Christ est Seigneur de toutes ces choses. C'est pour ça qu'on prend soin de soi, vous voyez. On prend soin de son corps, on ne mange pas n'importe quoi. On prend soin de ses amitiés, on prend soin de son temps avec Dieu, on prend soin de notre communion avec le Saint-Esprit, on prend soin d'une région en priant pour elle, on prend soin des gens qui sont autour de nous en priant pour eux. Combien d'entre vous avez prié minimum une heure cette semaine ? Ne levez pas la main, c'est juste pour vous faire réfléchir. Combien d'entre vous avez prié minimum une heure cette semaine pour les gens de votre entourage ? Juste pour vous faire réfléchir, pas besoin de lever la main. Vous voyez ? Sincèrement, quelle responsabilité ? Parce qu'une autorité vient avec une responsabilité. Automatiquement, n'est-ce pas ? Le don, pour pouvoir donner, il faut être riche. Donc, le don vient avec la compréhension de marcher dans la richesse et de gérer l'argent que Dieu vous a confié. Numéro 3, le surnaturel vient avec la compréhension que dans ce surnaturel-là, vous avez autorité. C'est vous qui décidez, c'est vous, c'est pas les démons qui vous parlent, c'est vous qui parlez aux démons. C'est pas les démons qui vous parlent, c'est vous qui dites « Satan, dans le nom du Seigneur Jésus, par cette autorité, je te commande, dors !» Et vous comprenez le surnaturel, donc le démon s'en va tout de suite. Alléluia. Une fois, Pasteur Chris était confronté à ça. Il était en voyage missionnaire. Il y a des gens qui priaient pour une personne démonisée. Ils disaient « Sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus. » Le démon ne sortait pas. Pasteur Chris a vu ça, il a dit « J'en ai marre de ce non-sens, je vais intervenir. » Il a juste pris la personne, il a fait « Dors !» Et le démon, pshou, il est sorti. Quelle est la différence ? Il comprenait ces cinq points. Il comprenait la seigneurie de Jésus. Qu'on nomme Jésus sur un démon, le démon est obligé de se soumettre. Quand on nomme, il comprenait le surnaturel. Qu'on est dans le surnaturel, le nom de Jésus est dans l'esprit plus fort que n'importe quelle chose qu'on était lié au Saint-Esprit. Il comprenait la loi de l'amour. Il voulait voir cette personne libérée. Oh, quelle horreur les gens oppressés par un démon. Il voulait voir cette personne marcher dans la sainteté d'esprit. Vous voyez ? Être saint d'esprit. Et ensuite, dernièrement, il y avait la compréhension du fait de donner. Il a donné son temps, il a donné sa compréhension à cette personne. Et ensuite, il y avait la compréhension de l'autorité de Jésus. Pourquoi? De l'autorité que lui, il avait de chasser un démon. Et il a compris que Jésus était seigneur de cette personne. Voyez, quand vous comprenez ces points, tout dans votre vie devient embelli par la parole de Dieu. Dites, je suis embelli par la compréhension des cinq facteurs pour les exploits. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vient à l'église. C'est pour entendre ce genre de message. Quel genre de vie vous avez après que vous compreniez ces choses? Vous commencez à comprendre quel genre de vie vous avez. Vous rentrez dans un endroit, vous dites « Jésus-Christ est Seigneur de mes études. Alléluia !» Vous êtes dans un endroit, je fais des études par amour. Et je, oh, alléluia, je travaille par amour pour avoir de quoi donner. Vous comprenez le surnaturel. Un prof vous aime pas, ha ha ha, c'est surnaturel. Vraiment, hein? C'est des choses surnaturelles, ça. Hein? Même, qui sait des fois, même ça m'est déjà arrivé à moi. Où on voit une personne et on se dit « Oh, cette personne, elle va m'agacer. » Il n'y a rien de factuel. Vous savez que c'est démoniaque, ça. Hein? C'est des démons qui sont derrière ces choses-là. Et même nous, les chrétiens, on doit faire attention de ne pas être influencés par ces choses-là. « Ouais, mais cette personne, sa manière de parler, ça m'agace. » Mais elle n'a rien fait factuellement de faux, vous voyez. Elle a une manière de parler, peut-être elle a une voix haute, aiguë. Vous voyez des choses bêtes qui embêtent la personne. C'est des démons qui sont derrière ça. Une fois, je me rappelle, une fois Pasteur Chris aussi, vous avez vu quand il fait. Vous savez, les gens disent « Non, c'est Dieu qui guérit les malades. » C'est pas Dieu, c'est pas Pasteur Chris, c'est Dieu qui guérit les malades. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que nous guérissons les malades. Il a dit allez guérissez les malades. Il n'a pas dit allez me demander de guérir les malades. Donc c'est vous qui guérissez les malades, bien sûr par la puissance de Dieu. Amen. Donc j'étais comme ça avec des chrétiens qui, bon c'est pas des gens ici bien sûr, mais des chrétiens qui sont chrétiens depuis très longtemps dans la région de mes parents. Et donc on voyait les gens étaient en chaise roulante, Pasteur Chris un par un. Les gens sortaient. Il y avait même une personne qui avait la lèpre. Vous vous rappelez cette personne qui avait la lèpre? Pasteur Chris arrive vers cette personne qui a la lèpre. Elle est toute tordue dans sa chaise. Il fait, dans le nom du Seigneur Jésus, sors d'elle. C'est un démon qui causait ces choses. Il ne faut pas croire. Hein. Il dit, sors d'elle au nom de Jésus. Et là, il dit, tu es libre. Et là, c'est quelque chose qui m'a touché. Les généraux du ministère, donc les gens qui aident le Pasteur Chris, il y avait la personne qui avait la lèpre. Hein. Ils l'ont pris par la peau. Ils n'en avaient rien à faire que la personne ait de la lèpre sur elle. Ils l'ont pris, hop, et ils l'ont poussé pour lui dire, c'est bon, t'es gris, marche. Et la personne s'est levée, elle a commencé à marcher comme ça. Et 3 mois après, elle vient donner son témoignage. Sa peau était lisse. Vous vous rappelez? Ceux qui ont vu le témoignage de l'école de guérison. Sa peau était lisse. Et donc, Pasteur Chris rendait ministère comme ça. C'était merveilleux. Les gens étaient guéris un par un. Ils se levaient des chaises roulantes. Ils se levaient des lits d'hôpitaux. Vous vous rappelez, c'est merveille. Christelle a été guérie là-bas. Ton frère a été guéri là-bas. Plein de gens ont été guéris là-bas. Et la personne, qui était chrétienne depuis longtemps, m'a dit, ouais, mais moi, je comprends pas pourquoi il s'habille en blanc. Vous vous rendez compte, oui, pour vous qui êtes né de nouveau dans le ministère, vous ne comprenez pas, mais il y a des chrétiens qui vont vraiment embêter pour ça. Et vous vous rendez compte qu'ils critiquaient un pasteur parce qu'il est habillé en blanc, alors que Dieu opérait des miracles surnaturels au travers de lui. Et ça c'est causé par des démons, ces choses-là. Il n'y a aucune logique à ne pas apprécier la couleur d'un vêtement de quelqu'un. Vous voyez? Alors en plus, ça, peut-être c'est Dieu qui lui a dit de s'habiller comme ça. Qui sait? Ou peut-être qu'il aime juste le blanc, vous voyez? Mais il n'y a pas de raison spirituelle, c'est des démons qui sont derrière ça. Et quand on comprend le surnaturel derrière ça, on dit « ha ha ha, au nom de Jésus ». Comment est-ce qu'on peut voir des miracles pareils? En plus, la personne en question, c'était une dame et son mari, croyaient en Jésus-Christ. Ils croyaient en Jésus-Christ, ils croyaient que Dieu pouvait guérir. Et quand ils voient ça, ils sont offensés par la couleur d'un vêtement. C'est démoniaque ça, vous voyez? C'est pas naturel qu'une personne soit offensée par la couleur d'un vêtement de quelqu'un. Dans un cas normal, je dis évidemment si vous venez, par exemple, un enterrement habillé en blanc, dans notre culture, c'est pas bien vu. Donc là, évidemment, on pourrait se dire, il y a peut-être une critique. Moi, je parle d'une personne qui s'habille pour aller à l'église. Vous voyez? Vous vous rendez compte? Être offensé par la couleur de vêtements de quelqu'un. C'est démoniaque, ces choses-là. C'est démoniaque. Ne vous y méprenez pas. Mais vous avez compris les 5 facteurs, amen. Dites, je comprends ces 5 facteurs. Et je les mets en pratique dans ma vie. Et je suis énergisé pour la victoire. Et je fais des exploits. Je gagne des âmes de partout. Je suis millionnaire et je donne mon argent pour l'évangile. Alléluia, vous êtes progressé. Comment on dit ça? Vous êtes progressé? Comment on dit ça? Vous êtes un progrès, alléluia. Vous progressez de toutes parts. Vous avez, c'est ça, vous avez été mis à jour. Vous avez été upgrade. La parole de Dieu vous a mis à jour à l'intérieur. Dites, je suis énergisé pour la victoire. Dites, je comprends l'autorité de Christ. Et mon autorité. Dites, je comprends. C'est quoi le numéro 2? Je vais vous tester là. Merci. Je comprends la loi du don. Dites-le. Je comprends la loi du don. Levez vos mains vers Dieu. Dites, je comprends la loi du don. Dites, je comprends le surnaturel. Dites, je comprends la loi de l'amour. et dites « Je comprends la seigneurie du Christ ». Alléluia. Levez-vous et commencez à bénir Dieu pour ce qu'il a fait de votre vie. Levez-vous.